Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour.
Un moment dans la vie de chaque homme où il faut se retourner pour faire le bilan des années qui se sont écoulées, pour embrasser d'un coup l'ouvrage de toute une vie, le résultat de quelques dizaines d'années d'existence. C'est une expérience souvent très mélancolique, où l'on pense aux années qui ont passé si vite, sans se faire remarquer. C'est le temps des souvenirs, des regrets peut-être. C'est le temps où l'on est amené, bon gré, mal gré, à méditer furtivement sur le pourquoi de la vie, l'angoissante incertitude du demain, l'implacable certitude de la mort. On a connu des peines, de grandes douleurs, des joies aussi. On a côtoyé beaucoup de monde. On s'est fait des amis et peut-être des ennemis. On a aimé, on a haï, construit et démoli. On a fondé un foyer, élevé une famille. Bref, tout le cortège banal d'événements qui marquent toute la vie d'homme. Une vie que l'on voudrait aussi longue que possible et où l'on s'est efforcé d'être aussi heureux que possible. C'est ce qu'on peut appeler une description sommaire de la vie, mais une description n'est pas une explication. Car on s'est sans doute déjà dit, si vivre n'est que cela, si vivre n'a pas d'autre objet que celui d'exister jusqu'à l'issue fatale, certains philosophes modernes n'ont pas tort de dire que l'existence est absurde. En réalité, il y en a très peu qui s'expriment d'une manière aussi brutale et catégorique. La plupart des savants, la plupart des penseurs cherchent le sens de la vie. N'est-ce pas paradoxal qu'en pleine ère atomique, où l'homme explore les autres planètes, on ne sache pas encore donner de la vie une définition, une explication satisfaisante? Les hommes cherchent, ils méditent. Il n'y a par exemple que Saint-Exupéry qui situe le but de l'homme en dehors de lui-même. Il déclare qu'en travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons, solitaires, avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille la peine de vivre. Dans ses méditations, il tire cette conclusion importante. Ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. Il y a Jean Rostand qui avoue humblement et loyalement son ignorance totale concernant ces problèmes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Que représente-t-il dans l'ensemble des choses? Qu'est-ce qu'une vie humaine? Qu'est-ce qui s'efface de l'univers quand périt un individu? Je n'hésiterai pas à dire que, s'agissant de ces problèmes, j'aurais traversé l'existence dans un état d'incompréhension effarée. Il y a l'écrivain Charles Morgan qui se dit « Il me semble qu'on résout le problème de la vie quand on a découvert ce qui doit prendre le premier rang. » Ces quelques citations parmi des centaines d'autres sont une expression de l'homme à la découverte du mystère qu'il est à ses propres yeux, de l'homme à la recherche d'un but, d'une existence qui n'a pas d'explication. Personne, ou presque personne, n'ose se prononcer catégoriquement sur ces questions fondamentales. C'est un domaine où l'on tâtonne dans la pénombre d'une ignorance presque infinie. En définitive, qui peut nous expliquer quel est le sens de la vie, sinon celui qui a fait la vie? Qui mieux que le potier sait de quoi est fait le vase et à quel usage il est destiné? Mais ce sont là des explications que l'on dédaigne, dont on se méfie, voire qu'on ridiculise. Elles n'en demeurent pas moins vraies et efficaces pour qui préfère les accepter avec confiance, pour qui daigne accueillir dans sa vie l'intervention du Christ. Le message du Fils de Dieu au monde est d'abord un message à l'homme en tant qu'individu. Et chaque être a reçu un certain capital fondamental qui s'appelle temps et talent. Le temps, le talent et toutes les formes de dons, de possibilités et d'opportunités qui font partie de la vie de chaque homme constituent aussi un investissement du Créateur en sa créature. Non seulement en sommes-nous les dépositaires, mais aussi et surtout les régisseurs, c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que Dieu nous a confié. Charles Morgan avait justement remarqué qu'on résout le problème de la vie quand on a découvert ce qui doit prendre le premier rang. L'important est de savoir ce qui mérite d'être placé au premier rang dans la vie. C'est ici où les hommes formulent toutes sortes d'hypothèses, de théories, de suppositions, d'opinions diverses et même contradictoires. À cet égard, Salomon dit très justement dans ses proverbes « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est au sein de cette confusion, de ces tâtonnements, de ces incertitudes humaines que le Christ intervient pour nous dire avec l'autorité qui caractérise tous ses prononcements « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est-à-dire, inquiétez-vous d'abord de faire ce que veut votre Créateur. Voilà le sens que doit avoir votre vie. Et pour illustrer les responsabilités de chaque être dans la gérance des biens que Dieu lui a confiés, voici l'illustration qu'il utilise. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui à qui le maître avait confié 5 talents en avait gagné 5 autres. De même, les 2 talents du second en avaient produit 2 supplémentaires. Le maître les accueillit avec honneur, car ils avaient été de bons et fidèles serviteurs. Cette parabole du Christ est une réponse précise à notre question. Que sommes-nous venus faire dans ce monde? Nous sommes venus pour servir un maître, en gérant les biens qu'il nous a confiés dans le temps qu'il nous a alloué. Dans la parabole, le mot « talent » désigne une grosse somme d'argent équivalent à plusieurs kilos d'or ou d'argent. Chez les Grecs, un talent pesait 26 kilos. Dans le cadre de cette parabole, il est tout à fait légitime de donner au mot « talent » une signification moins financière, plus morale. Et c'était là l'intention du Christ. Comme nous l'avons déjà suggéré, les talents, c'est tout ce qu'un homme a comme aptitude, comme don, comme possibilité, comme opportunité même. C'est tout ce qu'un homme est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire de constructif, et tout ce qu'il peut devenir, ce capital est diversement distribué parmi les hommes. Tous ne reçoivent pas la même somme, mais tous sont considérés de la même manière, c'est-à-dire comme des serviteurs. Chacun est chargé de faire fructifier son bien en attendant le retour du maître et pour sa gloire. Ce n'est pas la quantité produite qui importe, c'est l'effort en fonction de ce qu'on a à sa disposition. Il faut noter que l'homme à 2 talents a été honoré du même accueil que l'homme au Saint-Talent. En quantité, il a produit moins que l'autre. Mais la qualité de l'effort est identique, car tous deux ont agi selon le capital dont ils disposaient, chacun selon sa capacité, dit Jésus. Ils ont fidèlement géré leur bien. Par contre, le serviteur auquel le maître n'avait confié qu'un seul talent ne s'est pas inquiété de le faire fructifier. Jésus dit qu'il est allé le cacher dans la terre pour le remettre tel quel à son maître dès son retour. Et ce même maître qualifie ce serviteur de paresseux et d'inutile. Et il donne l'ordre de le jeter dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Paresseux et inutile. Parce qu'il n'a pas fait son devoir de serviteur. Il s'est peut-être dépensé en toutes sortes d'activités, mais il a négligé l'essentiel, à savoir produire des fruits pour le maître en cultivant la bonté, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la douceur, la maîtrise de soi. Il s'est peut-être découragé en sous-estimant les dons qu'il avait reçus. Il a peut-être raisonné comme certains. Si j'étais riche, je pourrais aider tel ou tel. Si j'étais influent, je ferais tel changement. Si j'étais encore jeune, je me lancerais dans telle entreprise, etc. Que ne ferait-on pas avec des si? Ce sont des velléitaires, les paresseux, les hypocrites qui parlent de cette manière. L'apôtre Paul a très justement dit, la bonne volonté, lorsqu'elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est là une des caractéristiques majeures du message chrétien. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Pauvre ou riche, influent ou obscur, doué ou ordinaire, chacun doit faire usage de ce qu'il a et de ce qu'il est dans une direction précise. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne vous trompez pas, continue-t-il, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le sel de la terre est un agent de conservation. L'homme doit, par sa vie, par ses biens, par ses aptitudes, contribuer à endiguer la corruption qui menace d'engloutir le monde, au lieu de contribuer à cette corruption par sa défection. La lumière du monde est un agent de vie, d'harmonie et d'intelligence, car elle dissipe les ténèbres de l'ignorance. Elle est un point de repère pour les désorientés, une direction pour les égarer. Elle éclaire le chemin des hommes en les rendant conscients de leur âme et de leur responsabilité à l'égard de Dieu. Voilà ce que doit tout homme. Voilà le sens de la vie. Voilà la tâche confiée à chaque être humain. Tout autre sens, c'est-à-dire toute autre signification, toute autre direction, conduirait à l'échec.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend, car nous n'avons absolument rien à vendre. Qui sommes-nous ? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.